notions sur la fantaisie parce que vous les avez déjà. Vous avez eu de brillants et compétences universitaires, j'imagine. J'en profite pour dire que j'aimerais bien avoir le contact avec ces universitaires puisqu'on organise l'année prochaine un colloque aux Imaginales sur la fantaisie. Ce sera la première fois et on le fera régulièrement. Donc voilà, il y a de quoi travailler sur ces sujets-là et c'est aussi vous, par votre intérêt qui avez donné envie de créer ça. Et Jacques Baudou ce matin, avec son excellent petit que sais-je, je comptais le citer, mais puisque j'ai personne dans la salle, j'en profite pour le faire devant lui, qui permet vraiment de s'initier à ce qu'est la fantaisie et aux définitions qu'on peut en donner. On va justement voir cet après-midi qu'avec Fabrice Collin, les définitions de Jacques Baudou, de beaucoup d'autres et les miennes, d'habitude efficaces, précises, rigoureuses et utiles, vont avec Fabrice Collin se trouver quelque peu bousculées. Et c'est aussi peut-être l'intérêt de lui donner cette carte blanche, parce que justement, c'est un écrivain qu'on va qualifier, mais c'est plutôt un compliment, c'est même un compliment, d'atypique, par rapport à ce qu'est la fantaisie traditionnelle. Je n'irai pas jusqu'à dire atypique vis-à-vis des auteurs français de fantaisie, puisque d'autres auteurs ouvrent eux aussi des chemins intéressants. Donc la première chose que je voulais rappeler, c'est que Fabrice Collin est certainement un des auteurs français les plus primés. Ce qui est toujours un bon signe, parce qu'on arrive bien un jour ou l'autre à avoir un prix, parce qu'on a quelques amis. Mais dans le domaine de l'imaginaire, c'est un peu moins vrai que dans d'autres domaines. Et par ailleurs, quand on en a toute une série, c'est en général extrêmement bon signe. Alors on va aller vite. Dès 1999 et 2000, il a eu deux prix. Aujourd'hui, je crois, disparu. L'Ozone, je ne sais pas si le Bob Moran existe encore. Donc ça commençait bien hein, pour une nouvelle en 99, une nouvelle et un roman en 2000. Et puis ensuite, des prix toujours existants et je crois reconnus aujourd'hui. Il a obtenu des grands prix de l'imaginaire, alors un en 2000 pour une nouvelle, un en 2004 pour un roman pour la jeunesse, Cyberpunk, un en 2004 toujours pour Dream Americana, ça c'était chez J'ai lu, un roman adulte, et puis en 2008, le roman pour la jeune, donc le prix Imaginal du meilleur roman de fantasy, pour La Malédiction d'Oldhaven, je crois que c'est aussi quelque chose qu'on peut signaler. Alors, justement, pour donner tout de suite la parole à Fabrice Collin, vous avez commencé quand même, si je me rappelle bien, Fabrice, par un genre un peu classique qui était plutôt de la science-fiction au départ de votre carrière. Alors, déjà, vous avez pris quelques chemins de traverse avec ce qu'on appelle le cyberpunk un peu, flirté avec ça, d'ailleurs, il y a eu un prix pour un de ces romans-là, si je me rappelle bien. Ça va être les confessions d'un mangeur de pion.
D'un automate.
Voilà, j'ai presque le titre en tête. Mais quand même la science-fiction, c'est-à-dire un des genres quand même les plus codés, on va dire. Alors, aujourd'hui, on va parler de fantasy, on va parler d'ouverture des genres. Pourquoi vous avez commencé votre carrière littéraire par un genre aussi codé que la science-fiction ?
Bonjour, hein, tout d'abord. Ça, c'est le fruit d'une rencontre avec Denis Guyot, qui s'occupait à l'époque de la collection Autre Monde chez Mango. Là, on parle de littérature jeunesse. Hein. Moi, j'étais... En fait, ces deux milieux, littérature jeunesse et littérature adulte, ou vieillesse, comme l'appellent certains auteurs de littérature jeunesse pour rigoler un petit peu, se recoupent dans les domaines de l'imaginaire. Et de plus en plus, je dirais, parce qu'on a un certain nombre d'auteurs qui écrivent pour les deux publics, et parfois même c'est, qui écrivent des romans qui sont tellement à la frontière entre la littérature pour adultes et la littérature pour adolescents que... ils sont publiés dans plusieurs collections pour un texte donné qui va se retrouver des fois publié en littérature adulte et parfois en littérature adolescente. Disons que à l'orée des années 2000, c'était peut-être moins évident. Les gens écrivaient soit pour la jeunesse, soit pour les adultes. Moi, j'avais commencé à écrire quelques romans aux éditions Nemos. Et j'avais envie d'écrire pour la jeunesse. Et j'ai rencontré Denis Guyot. J'ai toujours procédé un petit peu comme ça, c'est-à-dire je n'ai pas forcément été chercher bien loin, je me suis dit, j'en connais un, en fait, d'éditeur pour la jeunesse. Bon, il fait de la science-fiction, c'est pas très grave. Moyennant quoi, le premier texte que je lui ai donné, Les Enfants de la Lune était vraiment un roman qui n'avait rien à faire dans cette collection, parce que c'était pas spécialement de la science-fiction, et c'est assez étonnant rétrospectivement, parce que Tony Guyot a quand même une vision assez précise de ce que doit être la science-fiction ou de ce qu'elle n'est pas. Et très clairement, moi, je ne rentrais pas dans les clous. J'ai jamais trop discuté ensuite avec lui de la raison pour laquelle il avait publié ce premier texte. Je pense que c'est parce qu'il peut-être il voulait me publier, tout simplement. Et puis, par la suite, il y a eu un certain nombre de romans, à peu près un par an, hein, dans la collection Autre Monde. Encore une fois, collection vraiment de science-fiction en jeunesse. Puis après, il y a eu une ouverture vers d'autres éditeurs. On parlait tout à l'heure de la malédiction d'Aldaven, donc chez Albin Michel. Il y a eu aussi, par la suite, des choses chez Gallimard, au Seuil, etc. Donc j'ai un petit peu fait feu de tout bois en ce qui concerne la littérature jeunesse. Et effectivement, sans me soucier énormément des étiquettes qui, je dois dire, en littérature jeunesse, ont l'air de passionner beaucoup moins les lecteurs qu'en littérature pour adultes. Ce que je veux dire, c'est que dans une collection comme j'ai lu, je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, il y a une signalétique qui va dire, voilà, vous êtes bien dans la littérature de l'imaginaire, mais là vous avez fantasy, là vous avez science-fiction, là vous avez fantastique. En littérature jeunesse, c'est des littératures de l'imaginaire. En aucun cas, on vous précise que Harry Potter, c'est de la fantasy, ou que Les Mondes des Willam, c'est de la fantasy. Et on avait dans la collection Autre Monde quelque chose, il me semble, qui précisait que c'était de la science-fiction. Puis au fur et à mesure de l'évolution de la collection, tout ce qui pouvait trop typer les textes a été enlevé, parce qu'on se rend compte que finalement, ça agit plus comme un frein que comme quelque chose qui est incitatif. C'est-à-dire que les gens se disent « Ah bon, science-fiction ? Mais moi, je ne connais pas très bien, je ne sais pas ce que c'est. Il y a science, ça n'a pas l'air pour moi. Voilà. » J'ai eu énormément de... avec cette collection, en allant défendre ces livres-là dans des collèges, en allant en parler à des collégiens, des réactions de professeurs ou de documentalistes qui me disent « Ah bah, j'aime bien, et pourtant, c'est de la science-fiction. » C'est-à-dire que il y avait ce côté « Je ne suis pas censé aimer ça, moi. Voilà. »
Oui, on sait bien qu'on n'est pas censé, par les études de lettres qu'on a subies ou reçues, les uns et les autres, de s'intéresser à ce qui n'est évidemment pas enseigné à l'université, ni le polar, ni la BD, ni la science-fiction, ni la fantasy, ni le fantastique. En gros, ce que lisent l'essentiel du public, et surtout l'essentiel de la jeunesse. Mais c'est en train de changer un petit peu, même si ça reste encore un débat important. Vous avez peut-être une image, quand même, on va y revenir tout à l'heure, d'un télo de la fantaisie française. Je le corrigerai d'ailleurs avec les romans pour la jeunesse en particulier. Mais la première chose que je voudrais voir, c'est cette diversification qu'on a sentie. C'est-à-dire, partie de la science-fiction, de choses codées, c'est pas du tout une critique, hein, précise, dans un cadre qu'on repère relativement bien. Vous avez commencé, Emma Gunterstein et d'autres livres, à prendre des chemins de traverse, à toucher au fantastique, à toucher à la fantaisie, sans qu'on sache très bien si on était vraiment là aussi dans ces domaines précis, et puis un peu à mixer un petit peu tout ça. Déjà, c'était en perspective. Est-ce que c'était une simple, je ne vais pas dire cynique, hein, une logique adaptation à un marché ? Donc, est-ce que c'était une raison professionnelle stricte ? Ou est-ce qu'il y avait aussi, parce que je pense que ça a joué, une partie d'envie de ne pas être enfermé dans un cadre ? C'est l'impression que ça va donner, en tout cas, à suivre votre carrière littéraire.
Oui, je pense que c'est plus ça. Moi, je n'avais pas de vision stratégique sur le marché, pour la simple et bonne raison que je n'avais pas de connaissances en tant qu'écrivain, moi, sur ce marché. J'ai commencé à en acquérir un peu à force de fréquenter des éditeurs et de m'y intéresser, à commencer à comprendre un petit peu en termes de chiffres, voilà, la répartition entre les différents genres, l'évolution. Mais même aujourd'hui, je suis loin d'être un spécialiste sur la question, et le peu d'expertise que j'ai n'est pas du tout comparable à celle dont peuvent se prévaloir la plupart des éditeurs, quoi. Donc c'est pas un calcul. Maintenant, c'est vrai que quand on voit arriver, par exemple, des romans comme Harry Potter, ben, en tant qu'auteur, ça nous interpelle, ça nous dit, voilà, il y a un changement. Tiens, on a le droit de faire des livres de 800 pages maintenant. Bon, il se trouve que bah, ça peut m'intéresser, alors peut-être je vais le faire. Là, il faudrait être aveugle sur la décennie écoulée pour ne pas voir que la fantasy a pris beaucoup d'importance chez les lecteurs et en termes de part de marché, très certainement. Donc, moi, j'ai beaucoup, je fonctionne à l'envie. J'ai plein d'envie, j'ai plein de centres d'intérêt. Peut-être maintenant, depuis quelques années, je peux réfléchir un tout petit peu en termes stratégiques, c'est-à-dire à deux. Si j'ai le choix entre deux projets, je vais peut-être faire celui qui a plus de chances de se vendre qu'un autre. Donc peut-être je ferai plus de la fantasy que de la science-fiction. Mais en vérité, c'est très compliqué, hein, cette question. Là, je suis en discussion avec un éditeur jeunesse qui vient d'arriver sur le marché, une assez grosse maison, et je vois bien que lui et d'autres personnes sont quand même un peu perdus par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, parce que les tendances évoluent très très vite. C'est vrai qu'on a beaucoup dit là, ces dernières années, la fantasy c'est énorme, hein, bon, c'est en train de tout dévorer. Bon, c'est plus compliqué que ça. Dernièrement, et notamment dans les pays anglo-saxons, on sait que les gens, les éditeurs vont dans les foires, et notamment à Bologne ou à Francfort, pour prendre un peu la température. C'est quoi la prochaine tendance? Alors évidemment, il y a eu Harry Potter, ensuite on a eu Twilight, donc, qui est entré dans son sillage la bitlit, donc les histoires de plutôt de vampires, de loups-garous, de démons, de fantômes. Et puis aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne sait pas vraiment. Là, avec l'arrivée de 2012, par exemple, il semblerait qu'il y ait une tendance sur les dystopies, les uchronies, peut-être vers quelque chose de plus, avec plus de spiritualité aussi. Et en vérité, à force de s'interroger sur ces sujets-là, on s'aperçoit que les éditeurs sombrent dans une espèce de confusion, panique, et ne savent plus qu'est-ce qu'il faut faire. Et je pense qu'il faut arrêter de se demander qu'est-ce qu'il est opportun de faire à un instant T, mais parce que déjà, à partir du moment où on se demande, c'est trop tard, ça a déjà été fait. Bon, il faut faire ce qu'on a envie, et la plupart du temps, c'est ce que j'ai fait. Quoi.
L'histoire de centrale nucléaire avec une barrière électrique autour de l'Europe, pour que ça ne nous arrive pas, c'est un beau sujet. Ça. Plus sérieusement, mélange des genres. Vous avez répondu sur la diversification et le fait que c'était aussi des envies d'écrivain, qu'il n'y a pas de honte du tout à ce que les deux puissent se mêler, hein, une réflexion professionnelle, plus une envie de ne pas être dans des carcans, si j'ai bien compris. Et ce mélange des genres, justement, que vous pratiquez, en quoi ça vous paraît intéressant? À part le fait de ne pas, de le définir de façon négative, on n'est pas dans un carcan. En quoi ça apporte quelque chose à la littérature, et en particulier à la littérature d'imaginaire?
C'est presque un principe naturel. C'est pour la même raison que la mixité entre les différentes ethnies ou couches sociales, non seulement c'est intéressant, mais en plus c'est vital, c'est nécessaire. C'est-à-dire que ces genres, on le voit bien aujourd'hui, dans des niches éditoriales, que ce soit la fantasy pure ou ce qu'on appelle la bitlit, hein, c'est-à-dire l'histoire de vampires, ces genres généralement se focalisent autour de deux ou trois œuvres maîtresses, et puis ensuite il y a plein d'ersatz. Et si on reste en vase clos comme ça, ça dépérit, ça pourrit, quoi, je dirais. C'est-à-dire que il faut que ces littératures se nourrissent d'autres choses. Donc il faut procéder à des mélanges. Tiens, d'accord, un truc de vampire, mais pourquoi pas des vampires dans un monde médiéval, enfin je sais pas, je dis n'importe quoi, mais à un moment, il y a épuisement vraiment du sujet et épuisement du lecteur aussi. C'est-à-dire que les adolescents peuvent avoir un appétit monomaniaque pour tel type de littérature. Moi, je l'ai vécu en tant que lecteur, mais ça dure 2-3 ans. Et puis après, quand c'est fini, c'est fini. Et donc, plutôt que de perdre ces lecteurs-là, c'est aussi notre rôle d'écrivain de leur dire « Ouais, mais vous aimez bien tel élément, vous aimez bien aussi tel autre. Regardez, on va mélanger, c'est intéressant. En vérité, c'est, encore une fois, j'en parle de façon théorique, mais c'est pas un calcul. Je pense pas que les auteurs, ni même les éditeurs, réfléchissent comme ça en se disant qu'est-ce qu'on pourrait faire comme nouvelle potion avec les ingrédients qu'on a déjà. C'est juste, on s'en croûte, quoi, si on continue. Voilà. Par ailleurs, j'ai l'impression que les auteurs français aussi sont pas à l'aise dans ce truc de creuser un sillon ad vitam aeternam comme ça. Vous prenez un auteur comme Terry Pratchett en Angleterre, il y a plus de 30 volumes dans la série du Disque Monde. Je sais pas combien en est George Martin par exemple pour le Trône de Fer, mais c'est sidérant. C'est des gens qui sont capables de passer 10 ou 20 ou 30 ans de leur vie dans le même univers avec les mêmes personnages. Ce que je critique absolument pas, je suis même assez admiratif. Il doit y avoir des côtés incroyables là-dedans, parce que ce monde devient presque aussi réel que le monde réel pour les écrivains s'ils vivent pendant 30 ans dans ce monde-là. Mais moi, c'est personnellement quelque chose qui, moi, j'ai tendance à m'ennuyer en tant qu'écrivain aussi rapidement. Donc, moi-même, pour soutenir mon propre intérêt d'auteur, il faut que je change de sujet. Parfois, ça amène effectivement des mélanges.
On arrive tout doucement au cœur de notre sujet, c'est-à-dire les particularités de la fantaisie française. Là, on commence à distinguer, si on prend y compris des bons auteurs, hein, Martin ne peut pas dire que c'est un mauvais auteur, loin de là, on prend Robin Hobb, qui est un auteur ambitieux, on se rend bien compte que des auteurs de cette trempe aux États-Unis, mais il y en a plein d'autres qu'on pourrait citer, à la fois ils sont quand même relativement cadrés dans des genres, ils écrivent dans un autre genre que leur genre principal, mais ils le font dans une autre collection, ils le font avec d'autres personnages, et puis c'est là aussi souvent délimité. Il y a moins de mélange des genres, ou alors peut-être qu'on ne les traduit pas en France, ça on pourrait se poser la question. Et j'ai l'impression, comme vous le disiez, que les auteurs français ont plus envie, oui, de se balader entre les genres, de mixer un petit peu tout ça, de changer d'univers. Ils font des séries, mais ça dépasse rarement la trilogie. Même si on commence à voir des tendances nouvelles, on en parlera sans doute dans les années à venir. Je disais là, encore une fois, ce matin, Jacques Baudou, je relisais son petit que ça, il disait, et c'est peut-être une explication, votre choix dans un premier temps de la fantaisie jeunesse. La fantaisie pour la jeunesse est aujourd'hui plus libre, plus innovante, plus talentueuse en un mot, que celle pour les adultes, dès lors qu'elle n'essaie pas de singer cette dernière. Et là, petite attaque, comme le fait l'abominable Eragon, véritable festival de clichés. La vie de Jacques Baudou sur Eragon. C'était en 2005, hein, l'édition du livre était en 2005, donc peut-être qu'il était un peu dur pour la fantaisie française. Je pense qu'en 2011, on ne dirait plus tout à fait ça, en tout cas sur un nombre d'auteurs français qui font des romans adultes, ou young adultes, on verra ça, de façon à mon avis très intéressante. Ces livres jeunesse, donc Fabrice Colin, est-ce que ces choix d'écriture dans la jeunesse, est-ce que ça, vous l'avez fait parce qu'il y avait un marché spécifique, ou est-ce que c'était aussi parce qu'à l'époque, ça vous donnait plus de liberté, c'était la fin des années 90, début des années 2000, plus de liberté d'innover, de mixer tout ça, ces thématiques, de ne pas rester enfermé, que vous offrait peut-être moins la littérature adulte d'imaginaire à l'époque?
Oui, c'est assez paradoxal. Moi, j'ai entendu il y a quelques années des auteurs en littérature adulte dire oh, « ben non, moi, j'écrirai jamais pour la jeunesse parce que j'ai pas envie d'être censuré. » Ça n'arrive jamais, enfin, très rarement. En tout cas, pas sur les choix des thématiques qu'on peut aborder vraiment ce qu'on veut. On peut aborder des thèmes durs, on peut faire mourir les personnages, les histoires peuvent se finir mal, y compris... pas seulement en France, enfin, c'est vrai qu'aux États-Unis, moi je vois apparaître un certain nombre de projets, il y a vraiment des choses très très dures, et peut-être même de plus en plus, psychologiquement en tout cas. Alors c'est vrai ce que vous dites, la fantaisie française pour adultes, là, depuis moi 3-4 ans, je trouve, connaît un vrai renouveau, enfin il y a eu un certain nombre d'œuvres remarquables qui sont arrivées, mais moi quand je commence à écrire pour la jeunesse en 2001, c'est pas un calcul, c'est encore une fois c'est une envie, c'est d'autant moins un calcul qu'à l'époque c'est un marché qui est certes porteur, enfin qui existe, mais qui a rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui et en termes de potentialité, en tout cas dans les littératures de l'imaginaire. Il y a finalement, alors il y a des gens comme Jean-Luc Bizien ou Pierre Grimbert qui commencent à écrire de la fantaisie par exemple chez Bayard dans ces années-là, mais ça va pas très loin. On n'a pas encore les grands cycles qui vont arriver par la suite. Donc c'est une envie, et c'est vrai que ben, chez ces éditeurs jeunesse, a priori, on se sent bien et on se sent libre. Et paradoxalement, comme ce sont des gens qui n'ont pas toujours une très grande connaissance des genres littéraires, en tout cas, ils sont incapables de vous expliquer la différence entre fantasy, fantastique et science-fiction. Ils vont pas vous demander de vous conformer à l'un ou l'autre genre. Et puis, ils vous laissent vraiment faire ce que vous voulez. Ce qui les intéresse, c'est que vous leur racontiez une histoire qui les touche. Et c'est ce qui intéresse le lecteur aussi. Alors, ça paraît un petit peu démago dit comme ça, mais c'est vrai. Enfin, je pense que la question du genre littéraire intéresse pas vraiment les jeunes lecteurs. Là, je vois, j'ai oublié le nom du bouquin, mais le dernier bouquin de Scott Westerfeld, là, en jeunesse, c'est Léviathan, je crois, a extrêmement bien marché en France. Or, c'est pratiquement, enfin, c'est du steampunk, quoi. Le genre par excellence dont on nous a rebattu les oreilles que ça marchait pas, et voilà, que c'était un truc élitiste. Tout dépend, voilà, c'est du décor, quoi, ces genres. Et tout dépend de ce qu'on va raconter et de la façon dont on va raconter. Moi, je sens, et je le sens toujours aujourd'hui, et peut-être encore plus qu'avant, une grande liberté chez les éditeurs jeunesse. Mais je ne dis pas qu'elle n'existe pas chez les éditeurs adultes. Hein. C'est qu'en plus, là, on a l'impression que parfois, cette audace et cette liberté peuvent rencontrer un succès commercial et peuvent être publiées chez les grosses maisons, qui vont derrière sortir un attirail commercial, marketing, qui n'est pas sale en fait, hein, qui va simplement aider le livre à toucher son public dans un contexte qui commence à être très embouteillé.
Petite citation, ça sera la dernière de notre ami Jacques Baudou, mais on est en plein dans le vif du sujet. Les meilleures œuvres de fantasy française sont le plus souvent des romans qui n'appartiennent pas au noyau central du genre, mais à ses marges. Elles opèrent une subversion de ses codes, pratiquent le métissage et apparaissent comme des objets littéraires d'une grande originalité qui n'ont pas d'équivalent dans la fantaisie anglo-saxonne. On a l'impression qu'on définit, Fabrice Collin, certains de vos romans pour la jeunesse, en particulier La Malédiction d'Old Davin, je le prononce très mal, et puis le deuxième, puisqu'il y a une sorte de diptyque, hein, je pense qu'on peut le dire, Le Maître des Dragons, les deux étant parus chez Albin Michel dans la collection Wiz. Et personnellement, je considère que c'est deux de vos excellents romans. Il y en a beaucoup de bons, mais là, on est vraiment dans... Enfin, moi, j'ai eu énormément de plaisir à les lire. Et on en reparlera parce que, justement, on verra est-ce que c'est des romans pour jeunes ou est-ce que c'est des romans pour adultes. Ça nous préparera, d'ailleurs, la petite séance avec nos éditeurs tout à l'heure. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse de Jacques Baudou ? Vous n'allez pas ne pas être d'accord avec lui.
Je connais pas forcément assez la fantasy anglo-saxonne adulte pour prononcer là sur la pertinence de la comparaison, mais c'est vrai qu'on voit apparaître des textes je répète toujours ce mot là, mais d'une grande liberté et on s'aperçoit que l'audace est payante, quoi. Ça c'est quand même une bonne nouvelle en littérature. Moi, quand j'ai apporté le projet de diptyque chez Albin Michel, je l'ai fait parce que j'ai regardé ce qu'il publiait déjà, et j'ai vu qu'il publiait notamment un livre qui s'appelle « Abarat » de Clive Barker, avec plein d'illustrations, qui était un truc, une sorte de « all-in-me », objet littéraire non identifié, et je me suis dit, un éditeur qui a le courage de publier ce genre de choses, il peut bien publier mes livres aussi. Et quand on arrive chez ces gens en disant voilà, je vais faire un truc, alors il y aura deux bouquins qui vont se répondre, qui se passent en même temps, c'est pas une suite, oh, puis ils feront 700 pages chacun, il y aura de la violence et plusieurs histoires entremêlées, etc. Et que disent oui, d'accord, ça a l'air super, c'est vrai que c'est assez rafraîchissant et assez galvanisant, quoi. Et je suis évidemment pas le seul exemple. Il y a un certain nombre, puisque on est là aussi pour ça, pour citer des titres. Chacun en pensera ce qu'il voudra. Mais par exemple, un livre comme Toby Lawless de Timothée de Fombelle, si on veut bien admettre que ça appartient vaguement au genre fantasy, voilà, c'est un exemple de roman qui arrive pratiquement par la poste, qui vient de nulle part, qui raconte des choses qui ont en plus déjà été racontées, plus ou moins, mais de façon différente, avec une vraie... avec une langue, et puis tiens, on va mettre des illustrations à l'intérieur, puis on va faire une couverture un peu à contre-courant de ce qu'il fait habituellement, voilà. Et finalement, ça marche pas toujours, mais bah là, ça marche, quoi. Et on touche des choses... un livre qui se vend tout seul, parce que ça a été le cas aussi pour Harry Potter, mais Tommy Lolnes, au départ, il n'y a pas de marketing, il n'y a rien de spécial, ils sortent le livre, quoi. Aujourd'hui, je crois qu'on en est à plus de 100 000 exemplaires. Il y a des tractations avec un studio hollywoodien et pas le moindre, avec un scénario qui est en train d'être écrit. Le livre est écrit traduit dans 25 langues. Bon, il y a un vrai succès et il y a des gens qui savent reconnaître ces œuvres-là quand ils les reçoivent et les publier. Et donc, voilà, je trouve que tout ça est super positif. Je cite ce titre-là parce que, en plus, moi j'aime. J'aime bien Le Garçon et je connais bien ce livre, mais il y a un certain nombre d'autres exemples. Récemment, je crois qu'il a eu le prix Imaginal aussi, me semble-t-il, Les Éveilleurs de Pauline Alphen. Non. C'est un autre exemple de. Voilà, moi en plus j'ai également eu la chance de voir ce livre naître un petit peu, enfin s'écrire. Et c'est des gens qui arrivent et qui s'en sont complexes, quoi. Et ça, c'est assez important. Et qui n'ont pas en tête, qui n'ont pas l'esprit embrumé par des histoires de code, est-ce que je suis bien dans les rails et tout ça. Et je me revois un petit peu, moi, en 97, quand je suis arrivé aux éditions Nemos, où on a été un certain nombre d'auteurs français à publier de la fantasy, comme ça, juste parce que finalement, ben, on avait envie, quoi. Et sans trop savoir ce qui avait été fait avant, sans trop savoir ce qui se faisait ou ce qui devait pas se faire, avec un éditeur qui était au moins aussi fou que nous. Et c'est comme ça qu'a commencé cette aventure, je dirais, un petit peu la fantasy française, même s'il y a eu d'autres auteurs avant nous. Mais bon, Stéphane Marsan, ça a été Mnemos, puis après ça a été Bragelonne, donc c'est devenu quelque chose, quoi.
On va revenir, on va creuser ce sillon, mais juste une petite remarque quand même, c'est toujours intéressant, la question de l'édition. On a des éditeurs quand même plus curieux qu'on le dit parfois. Là encore, j'en viens de voir, ça vient de sortir. J'ai plus de titre en tête, mais je vous enverrai après, par l'intermédiaire de Lecteur Jeunesse, je vous enverrai une petite liste. Je suis en train de faire une petite biblio, voilà, actualisée, y compris des coups de cœur, des livres qui me paraissent intéressants, qui apportent des choses, pas seulement les classiques. Et Nadia Coste, pour la citer, sort son premier roman, c'est une tétralogie, c'est de la fantaisie jeunesse, avec des petites créatures dans un marais. Alors les fourmis, on l'a eu, mais là, c'est en jeunesse, et j'ai commencé à le lire, c'est vraiment sympa. Elle a écrit les 4 bouquins, et puis elle a pris contact ensuite avec un éditeur. Et l'éditeur, c'est Grune, pour ne pas le nommer non plus, il a lu, ils ont fait lire, ils ont relu, et ils ont pris les 4 bouquins, c'est une inconnue, il la lance. Avec 4 volumes, et pas des petits volumes, pour les jeunes, voilà. Et ils ont pris un plus connu pour lancer leur nouvelle collection, puis ils ont, en tout cas pour publier des livres de fantasy, voilà. Et ça s'est fait relativement vite et facilement, ce qui veut dire qu'il y a encore, pour ceux et celles qui ont envie d'écrire des livres, des possibilités de publier. Et là aussi, sur des choses relativement originales, ça confirme un peu, je pense, ce que dit Fabrice Collin. Sur la malédiction d'Oldhaven, le maître des dragons, alors. C'est de la science-fiction, c'est de la fantasy, il y a aussi des histoires de sorcières, des histoires de pirates. C'est quoi ?
C'est. Voilà, c'est trop rien en fait. C'est même pas une uchronie, parce qu'une uchronie, ça suppose qu'il y ait un point de divergence dans l'histoire. Or là, ce point de divergence, il est jamais nommé, donc on est dans une espèce de. C'est sur la Terre, mais c'est pas vraiment la Terre. C'est un monde parallèle qui a des points communs avec le nôtre, notamment géographiquement. Il y a l'Amérique. Les forêts sont là où elles sont dans le vrai monde, mais c'est pas les mêmes personnes qui les habitent. Voilà. Il y a des dragons, la magie fonctionne. Donc c'est une forme assez... élaboré, mais que j'ai pas du tout inventé moi, de fantasy qui se passe finalement plus ou moins dans notre monde, qui revisite notre histoire, etc. Donc dans les premiers, si on regarde un peu l'historique de la fantasy telle qu'on la connaît. Moi, je ne vais pas remonter après au 19e, etc. Mais si on prend, que ce soit Le Seigneur des Anneaux ou Conan le Barbare, même si on peut discuter sur, sur Conan le Barbare, mais que ce soit les bouquins de Fritz Leiber et compagnie, on est dans des mondes que moi j'appelle primaires, c'est-à-dire que c'est juste un autre monde. Avec sa géographie, c'est un monde qu'on ne connaît pas. Voilà. Et puis on a l'impression qu'il y a après une évolution. Aujourd'hui, vous avez. Alors d'abord, on a, je ne sais pas forcément chronologique, mais on a aussi une fantasy où on passe de notre monde à un monde de fantasy, pur sucre. Alors ça peut être Narnia, mais c'est aussi les mondes des Whelan, hein, de Pierre Bottero. Et puis on a la fantasy. Qui est fort close comme ça à l'intérieur de notre monde, quoi. Et d'une certaine façon, alors soit on considère que Harry Potter c'est un monde parallèle, mais plus certainement c'est simplement notre monde, mais la magie existe, mais en fait on ne le sait pas, enfin en tout cas la plupart des gens ne sont pas au courant. Donc là je trouve qu'il y a une progression assez intéressante. On fait venir de plus en plus la magie à nous. Alors il y a peut-être des raisons pratiques pour ça, peut-être qu'on se dit il est difficile, moi je me suis déjà posé la question, d'intéresser maintenant des lecteurs qui sont extrêmement sollicités, et pas seulement par la lecture, à des mondes de fantasy totalement inventés, dont ils vont d'abord devoir comprendre la géographie, l'histoire, etc., avant de pouvoir comprendre ce qu'on leur raconte comme histoire. Le problème du Seigneur des Anneaux, c'est ça, c'est il faut présenter un monde et raconter l'histoire qui se passe dedans. Donc ça donne 200 pages d'introduction qui serait certainement aujourd'hui un petit peu difficile à avaler pour des jeunes lecteurs. Moi, dans les collèges où je me déplace, je ne rencontre pas beaucoup de fans du Seigneur des Anneaux. Je ne sais pas si c'est une évolution ou pas, ou si c'est parce que je n'ai pas de bol, mais en tout cas, c'est comme ça. Et ce n'est pas la taille qui pose problème, parce que par ailleurs, ça ne les dérange pas de se taper 1000 pages d'Harry Potter. En revanche, Harry Potter, ça parle tout de suite, quoi. Et c'est vrai que maintenant, nous, on a cette nécessité chez les grands éditeurs. Ils essaient de nous dire, ça serait bien si on pouvait tout de suite comprendre de quoi il va être question, et que donc on n'ait pas besoin de se référer à un lexique super compliqué à la fin, par exemple. S'il y a des choses nouvelles que tu as totalement inventées, bien présente-les de façon progressive et pas comme un gros pavé indigeste tout de suite. Et donc, Harry Potter ou Twilight, c'est encore autre chose, c'est pratique, parce que voilà, c'est notre monde, et en plus, il y a des vampires, et en plus, il y a de la magie. Mais avant tout, c'est ici et maintenant, donc les codes principaux, les repères, le lecteur les a au départ, quoi.
Ça me fait penser à Byron Elliott, un auteur qui fait aussi de la fantasy, mais surtout un peu du steampunk, de la science-fiction, qui était venu dans une de mes classes, en l'occurrence, et les élèves lui avaient fait la remarque que sa nouvelle a été super chouette, mais que le début, s'il n'avait pas été imposé en classe, il ne l'aurait pas fini. Parce qu'il y avait de l'exposition, il y avait une scène d'expo un peu trop longue, et du coup, les élèves auraient décroché. Et je crois que ça renvoie en effet à la lecture actuelle du Seigneur des Anneaux. Pour beaucoup de jeunes, c'est des habitudes liées à la télévision, au DVD, au cinéma, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Et finalement, on commence à réagir, même nous, dans notre génération, comme ça. L'autofiction, souvent, c'est lassant. Hein, on commence à regarder, il ne se passe rien, alors bon... On va dire autre chose. C'est aussi un peu ça, je pense, auquel on est confronté. Pour continuer un petit peu ce sillon, et un peu ironiser peut-être sur des échecs et des erreurs des écrivains français, peut-être 20-25 ans, c'est vieux maintenant, il y a eu des courants dans la SF française qui ont voulu s'affranchir des modèles américains. En soi, c'est tout à fait respectable. Sauf qu'ils se sont affranchis en mettant en avant la qualité de l'écriture. Bon, premier critère. Aujourd'hui, il y a des Américains qui écrivent vraiment bien dans le domaine de l'imaginaire, donc je pense que c'était plus un acquis. Mais à l'époque, il y avait une vraie écriture. Mais à force d'avoir une écriture et d'être centré là-dessus, il n'y avait plus d'histoire. Et évidemment, le résultat, c'est que les lecteurs qui veulent qu'on leur raconte des histoires achetaient Américains et pas Français. Et que ça a été quand même un drame pour cette génération qui s'est trouvée très vite marginalisée de façon assez dramatique dans l'édition. Je me suis demandé à un moment donné, Fabrice Collin, si vous n'alliez pas reprendre un peu ce sillon, parce que vous êtes un écrivain authentique, vous êtes un styliste. Dans certains de vos livres adultes, je pense, alors je vais retrouver le titre parce que je l'ai lu très récemment, c'est un recueil de nouvelles, même s'il y a un univers un peu, La vie extraordinaire des gens ordinaires chez Flammarion. Alors, à la fois ça m'a énervé parce que c'est un livre, c'est le type de livre que j'aime pas. Et puis, ça m'a encore plus énervé parce que je l'ai fini, que j'ai trouvé que chaque texte était chouette. Mais tout de même, j'ai senti que là, il y avait un écrivain qui se rapprochait un petit peu peut-être de la littérature générale, qui nuançait son imaginaire. Alors que quand vous êtes en littérature jeunesse, j'ai l'impression que là, vous vous lâchez complètement, l'imaginaire emporte tout, et on ne voit plus, sauf si on fait un petit travail de réflexion là-dessus, la qualité de l'écriture. En un mot, est-ce que vous n'êtes pas un intello quand il s'agit de la littérature adulte, et là, pour un noyau relativement restreint? Est-ce que vous n'auriez pas votre notation de Venise qui serait de rentrer en littérature générale? Brièvement, ce n'est pas notre sujet central. Et est-ce que, justement, la littérature en direction des jeunes ne vous donne pas l'opportunité de rassembler les deux, c'est-à-dire l'écriture et la passion imaginaire de raconter et d'emballer le lecteur?
J'ai eu cette... Quand j'ai commencé dans les littératures de l'imaginaire, il y a eu un moment où on était plusieurs, et ça continue aujourd'hui, à regarder avec envie la littérature générale, comme si c'était le domaine de la belle écriture, quoi. Ce qui est complètement idiot, en fait. Il se trouve que, alors pour des raisons historiques, il y a eu tout un pan des littératures de l'imaginaire, c'était pas très bien écrit, et donc peut-être dans l'esprit des gens c'est resté comme ça. Aujourd'hui, il suffit de jeter un œil à des bouquins comme les livres de Jean-Philippe Jaworski, ou des chronologues, ou de Stéphane Beauverger, ou au bouquin d'Alain Damasio, ou au bouquin de Jérôme Noirez, ou de Xavier Mauméjean, pour comprendre que c'est tout à fait aussi bien écrit, voire mieux certains textes de chez POL ou ce que vous voulez, et c'est très souvent beaucoup moins chiant, surtout. Donc là, il n'y a pas de complexe à avoir, mais ce complexe, j'ai pu l'avoir à un moment où aujourd'hui, je ne vois pas la littérature générale comme un îlot ou une forteresse inexpugnable. De toute façon, si je veux publier en littérature générale, je le ferai, je l'ai déjà fait. J'ai écrit un roman l'année dernière, il y a 2 ans, qui est sorti aux éditions Inculte, qui est quand même un peu le summum de la branchitude parisienne littéraire. Donc, c'est pas... Mais je l'ai fait parce que le texte... Voilà, parce que j'aimais bien les gens qui étaient là-bas, parce que le texte, il me semblait aller bien dans cette collection-là, quoi. C'est pas pour dire, regardez, j'ai publié en littérature générale. Maintenant, c'est vraiment quelque chose dont je me fous. Mais ça n'a pas été le cas tout le temps. Par contre, sur la littérature jeunesse, effectivement, on a eu, et je pense que c'est quelque chose qui est général avec les auteurs français, il y a un côté qui va assez à contre-courant finalement de notre nature supposée, héritée des Lumières, cartésienne, etc. C'est qu'on est un peu des branleurs, des je m'en foutistes, alors on va faire des trucs super poétiques et sympas, etc. Mais au niveau de l'intrigue, on n'a pas l'efficacité des Américains. Je pense que pour certains auteurs, c'est en train de changer. Moi, c'est quelque chose à quoi je fais très attention maintenant, c'est-à-dire me dire, faisons un texte que les jeunes vont lire, qui ne vont pas lâcher au bout de 20 pages. Et pour moi, je ne bascule pas dans le camp du mal en me disant ça. Je prends juste acte d'un fait. Je me dis, qu'est-ce qu'on veut ? On veut que les jeunes lisent, ou on veut qu'ils voient que je suis un super écrivain, mais de toute façon, ils s'en foutent parce qu'ils vont arrêter au bout de 10 pages. Non, j'ai envie qu'ils lisent. J'ai envie qu'ils lisent des bons textes, que ce soit de moi ou de n'importe qui d'autre. Mais pour ça, il faut qu'ils aient envie, donc il faut qu'ils rentrent dans le livre. Donc tout ce qui est intrigue, motivation des personnages, j'ai l'impression de dire des banalités comme ça, mais ça va pas toujours de soi. C'est important. Construisons des histoires que les jeunes ont envie de lire, faisons des romans efficaces qui les emmènent quelque part. Et moi, il n'y a rien qui me plaît plus que quand un gamin me dit « mais je n'ai pas dormi de la nuit parce qu'il fallait que je finisse le livre ». Ça, c'est parfait. Seulement, ça va pas... Il n'y a aucune contradiction avec la qualité d'écriture. On a aujourd'hui en littérature jeunesse encore, et je ne vais pas les nommer parce que c'est pas... Mais certainement, vous allez les reconnaître. Il y a des bouquins qui sont quand même... notamment en fantasy, extrêmement mal écrit. Visiblement, ça ne gêne pas les lecteurs, mais ça ne les gêne pas non plus si c'est bien écrit. Toby Lolness, c'est bien écrit, ce n'est pas un problème. Pauline Alphen, c'est bien écrit. Il y a des auteurs jeunesse, Jérôme Noiret, c'est bien écrit, ça fait rien. Hein. Ils arrivent quand même à le lire, c'est pas un handicap. Et je trouve d'ailleurs, bon après on peut trouver à redire sur la traduction, mais que Harry Potter est pas mal écrit aussi dans son genre. Donc, j'avais une discussion justement par mail très tard hier dans la nuit avec une éditrice qui me disait, mais vous voyez, là les auteurs français, vous êtes un certain nombre à avoir intégré les codes de l'efficacité narrative, etc. Et si vous voulez être traduit dans plein de pays, et si vous voulez être adapté au cinéma ou que sais-je, c'est vrai que vous avez intérêt à faire gaffe à ça. Et si vous avez envie d'être un jour très riche, c'est quelque chose qui peut compter. Évidemment, ce n'est pas les trucs qu'on a à l'esprit en premier lieu, mais voilà, ça, c'est une nécessité. Seulement, elle dit, vous avez aussi ce côté iconoclaste, cette poésie, cet amour de la langue, ces idées complètement barrées, que les Américains n'ont pas forcément, ou les Anglais, enfin les Anglo-Saxons. Et donc, potentiellement, ça peut être super. Hein. C'est-à-dire que si vous arrivez à écrire le Da Vinci Code, mais comme Boris Vian, voilà, ça, je ne suis pas sûr, d'ailleurs, de la pertinence de cet exemple. Je suis en train de le formuler, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, l'un n'empêche pas l'autre. Quoi.
On arrive bientôt aux questions pourrait poser à Fabrice Scola, mais puisqu'on a quand même réussi à se poser des questions sur les particularités de la fantaisie française, en résumant, il y a quand même une qualité d'écriture quand, dans l'ensemble est quand même peut-être supérieure à la qualité moyenne qu'on peut trouver chez les auteurs anglo-saxons, je dis bien moyenne, hein, et je serai prudente, plus peut-être de facilité à casser les codes et les cadres et à se laisser aller, à mixer les genres, dans un roman qui est bon, un objet littéraire non identifié, comme vous le disiez tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on pourrait encore... c'est peut-être ces deux critères qu'on pourrait mettre en avant pour distinguer
oui,
un petit
oui,
peu.
Oui, il ne faut pas être trop injuste. Enfin, encore une fois, moi, je vois arriver beaucoup de projets anglo-saxons. Il y a des choses très, très imaginatives. Hein, mais c'est vrai que... bon, et puis, il y a aussi des auteurs français qui ont fait des trucs, et notamment en jeunesse, super bateaux, quoi, qui sont vraiment des décalques du Seigneur des Anneaux et qu'on sort, mais en moins bien. Donc, il n'y a pas de quoi non plus se glorifier. Il y a des auteurs, et notamment des auteurs qui viennent de littérature de l'imaginaire adulte. Je pense vraiment à des gens comme Jérôme Noiret, par exemple, qui ont un imaginaire qui est flamboyant, qui ont vraiment une belle plume et qui peuvent amener des choses qui sont pas formatées, qui sont pas abîmées par une sorte de pensée hollywoodienne qui voudrait forcément qu'il y ait un bouquin en trois actes, que quand tu es dans un genre, et ben tu y restes, etc. Donc il y a cette c'est une littérature décomplexée aussi, je pense, et surtout je pense que on en est qu'aux prémices.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire découvrir aux jeunes lecteurs aujourd'hui, à part les ouvrages de Fabrice Scola, que je les ai cités, hein. Vous avez à la fois en SF, mais là on sort un peu de notre sujet, un certain nombre de romans qui sont parus donc chez Mango en particulier. Je pense qu'on peut leur conseiller plutôt, pas aux tout petits, hein, c'est plutôt aux ados, là, vraiment, le diptyque La maladie d'Oldhaven et Le maître des dragons. Je crois que c'est quand même deux grands livres. Voilà, moi je le dis comme je pense. Hein, bien sorti que sur un ou deux bouquins, j'ai mémoire, mais ça c'est normal aussi, c'est la liberté qu'on peut avoir d'en discuter entre nous. Et puis, quel livre encore, un ou deux, de vous d'abord avant d'en conseiller aux autres?
Non, mais c'est pas très... Enfin, je veux dire, il suffit d'aller sur Wikipédia et vous verrez les autres livres que j'ai écrit, je vais pas conseiller mes propres bouquins, je sais pas, je suis pas très bon juge. Toute la série des sœurs Wilcox là, oui, chez Gallimard Jeunesse, je sais qu'elle fonctionne bien, et elle fonctionne bien avec des jeunes lecteurs, des lecteurs à partir de 11-12 ans, et ça a été aussi conçu comme ça. Maintenant, dans mes confrères, j'ai parlé de Jérôme Noiret, j'ai l'air d'insister, mais parce que je trouve que son relatif, en tout cas, il n'a pas encore le succès qu'il mérite, voilà, à mon avis.
Peut-être du mal à l'identifier encore un peu.
Oui, certainement. C'est je veux dire, ce truc de... Et puis peut-être qu'il faut aussi trouver des éditeurs qui savent juste... Je ne dis pas que les précédents n'étaient pas bons, au contraire, mais peut-être à un moment, si on veut franchir un palier, il faut que quelqu'un fixe des objectifs pour grandir, quoi, en tant qu'auteur. C'est vrai qu'il y a la collection qui est dirigée par Xavier Mauméjean, Royaume perdu.
Royaume perdu, j'aime bien Fabien Clavel, par exemple.
Chez Mango. Voilà, il y a pas mal de bons bouquins, je n'ai pas tous lu, hein, loin de là.
J'ai bien aimé Charlotte Bousquet, qui était sur une relecture de Podane. C'est un sujet difficile pour des collégiens, mais...
C'est... Oui, parce que le principe, c'est aussi du recyclage, et ça aussi, c'est assez symptomatique, hein, cette collection. Ce n'est pas juste des bouquins de fantasy, c'est... On reprend un mythe, on reprend une civilisation, c'est de l'ordre de la réinterprétation. Bon. Moi, j'aime beaucoup les romans de Timothée de Fombelle, et notamment ce qui est arrivé après Toby Lawlness, Van Gogh, qui est de la pure aventure, où il n'y a pas vraiment de fantastique, mais en vérité, il y a un côté moi, que j'aime beaucoup, c'est le côté le monde réel, l'histoire est aussi incroyable qu'un monde de fantasy, et arriver à faire oublier finalement au lecteur qu'on est en train de lui raconter l'histoire. C'est très délicat pour moi de me prononcer sur,
sur
Pierre Bottero. Non, mais parce que c'est un ami, il est mort, ça fait déjà beaucoup. Je ne suis pas un fan absolu de ses bouquins en tant que lecteur, en revanche, en tant que quelqu'un qui a pu observer l'effet que ces livres produisent sur les lecteurs, c'est difficile de ne pas les conseiller. C'est des livres qui donnent envie de lire. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient, il y a un an et demi, à Montreuil, à une sorte de cérémonie, je n'aime pas ce mot-là, mais parce que Pierre Bottero devait intervenir. Et donc forcément, il n'a pas pu. Et on était plusieurs auteurs à lire certains de ses textes pour les lecteurs qui étaient de toute façon venus pour l'écouter et qui avaient pris leur billet de train, parce qu'il y a des gens qui venaient de très loin et qui n'allaient pas repartir. Donc c'était une sorte d'une heure comme ça d'hommage et de lecture. Moi j'étais stupéfait, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais vu, et en tout cas pas sur mes bouquins, de voir que les lecteurs connaissaient les livres par cœur, quoi. À l'heure où on dit alors les jeunes ils se puent, ils n'ont plus le goût de l'effort, machin, etc., quand on les intéresse vraiment, quand on sait aller les chercher à un certain endroit, il y a des réactions extraordinaires. Donc après, il ne s'agit pas de dire est-ce que c'est de la grande littérature ou pas, j'en sais rien. Les bouquins de Pierre Bottero, est-ce que ça restera, je ne sais pas. Mais le fait est qu'aujourd'hui, voilà, il y a énormément de ventes. Comme pour les autres gros succès de la littérature jeunesse, il y a vraiment un truc très rafraîchissant là-dedans. C'est que c'est jamais calculé comme ça. Les gens ne se disent pas en recevant le truc, on est riche. On n'en sait rien du tout. Ça arrive, c'est le bouche à oreille. Il y a le rôle des prescripteurs est certainement important, mais pas à ce point-là, quoi. Quand vous comptez les lecteurs en centaines de milliers, il s'est passé autre chose. On n'arrive pas toujours à mettre le doigt dessus, mais il se passe quelque chose. Et moi, je ne peux que recommander ces livres-là pour ce plaisir-là, évident, qui transparaît dans les yeux des lecteurs et dans le fait qu'ils en viennent à les lire tellement qu'ils les connaissent par cœur. Qu'est-ce qu'on peut citer j'ai parlé de Pauline Alphen tout à l'heure. Je trouvais que c'était quand même assez nouveau et frais ce qu'elle a fait, parce que c'est un monde plutôt de fantasy, mais dans un univers un petit peu post-apocalyptique.
Un peu lent comme déroulement.
Oui.
J'étais très étonné d'ailleurs du choix des jeunes, parce qu'il faut le savoir, c'est son premier roman, en tout cas en jeunesse imaginaire, et elle a eu le prix imaginal des collégiens. C'est-à-dire que c'est quand même 150 collégiens de l'académie qui ont pris la décision, avec des délégués, non plus que ça, 300. C'est quand même, c'est pas le livre, je savais que ça les intéresserait, mais j'ai été étonné qu'ils fassent ce choix. C'est pas un livre aussi évident que ça.
Non, ça contredit un tout peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur Seigneur des Anneaux, à savoir qu'on peut aussi lire des livres lents où il n'y a pas forcément tout de suite des péripéties par centaines. Et moi, vraiment, je m'interroge beaucoup sur ce qui intéresse notamment les collégiens en termes de. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont aimer un livre ou pas? Et c'est intéressant, j'ai toujours pas trouvé la réponse. De toute façon, ça se saurait si elle était évidente. Mais on est encore très souvent étonné. Ce qui est sûr, c'est que vouloir appliquer de façon bête et méchante des recettes, ça marche pas. Et que les succès, les beaux succès, généralement, ils sont le fait d'auteurs pas forcément inconnus, mais sans complexe, qui arrivent et qui disent « Voilà, moi, c'est ça, cette histoire que j'ai envie de raconter ». Et ça fait un petit peu bateau, mais c'est vrai qu'une qualité à laquelle ils peuvent être très sensibles, c'est vraiment la sincérité de l'auteur, quoi. Ce qui montre que la fabrication peut-être marcher si on met des dizaines de millions de dollars de promo, etc. Mais c'est surtout s'il y a un film. Mais qu'en dehors de ça, c'est vraiment... Je suis content de voir qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui continuent de fonctionner au coup de cœur, et ça ne marche pas toujours, malheureusement, mais quand ça marche, c'est doublement satisfaisant.
Peut-être quelques questions, justement, puisqu'il nous reste quelques minutes avant que tu J'ai une écoute religieuse.
Ah, c'est l'unanimité.
C'est un grand silence. Le micro arrive.
Je voulais juste dire que cette littérature, justement, très libre, qui s'adresse aux adolescents, elle attire de plus en plus d'adultes. Moi, ça fait plus de 30 ans que je travaille en bibliothèque. Et je remarque chaque semaine un afflux d'adultes qui trouvent justement que c'est une littérature qui peut être en même temps très bien écrite, très prenante et très efficace, justement pas chiante comme énormément d'auteurs dits pour adultes.
Ah ben c'est très vrai, et d'ailleurs ça se vérifie sur un plan éditorial parce que là on a parlé de la malédiction d'Aldaven et du Maître des Dragons, ils sont repris par exemple en collection de poche chez un éditeur adulte, quoi, le livre de poche adulte. Et ça arrive très très fréquemment. Il y a plein de précédents, que ce soit les Royaumes du Nord, le clan des Autori, etc. Donc, plusieurs exploitations. Mais c'est vrai qu'il y a des adultes qui viennent vers ça. Et on en tient compte aussi en tant qu'auteur. Et donc, du coup, le phénomène s'auto-alimente comme ça. Et c'est assez perturbant. Ce qui est aussi perturbant pour moi, c'est d'avoir des critiques sur des blogs de blogueuses de bouquins, par exemple, comme les sœurs Wilcox, où elles vont me dire... Oui, mais quand même, c'est un petit peu trop jeunesse pour moi. Les filles, elles ont 35 ans. Je dis, ben oui, de fait, en fait, c'est un livre jeunesse. C'est-à-dire qu'au premier chef, il ne faut pas oublier ça. Et c'est marrant. Elles ont tendance, des fois, je dis elles parce que c'est 99% de blogueuses, mais elles ont tendance à perdre ça de vue. Et elles jugent vraiment le truc à l'aune de leurs critères qui valent pour tous les bouquins, quoi.
J'avais une question sur Cyberpunk, savoir si Peter Pan était un livre. Enfin, qui était important pour vous quand vous étiez enfant, et s'il y a d'autres livres jeunesse qui ont compté pour vous dans votre écriture.
Oui, alors Peter Pan, il y a une importance. Ce livre-là, il a été fait un petit peu comme un pari au départ, à la suite d'une discussion avec Denis Guyot. Et puis ces choses-là sont jamais innocentes en fait. Donc pourquoi Peter Pan et pourquoi pas autre chose? Ce que je sais, c'est que moi, en classe, c'est un bouquin qui est super intéressant à étudier parce qu'il permet d'aborder avec les jeunes lecteurs la question de la permanence d'une histoire. C'est-à-dire qu'une histoire comme Peter Pan est valable, a eu un succès il y a un siècle. Et aujourd'hui, on peut encore la raconter de façon différente, finalement en changeant le décor, mais l'histoire, elle reste. Et moi, je suis très sensible à la floraison qu'il y a eu en l'espace de 30-40 ans où, de mon point de vue, certains livres jeunesse ont constitué presque un fond mythologique qui est comparable à celui qu'on peut avoir aujourd'hui avec les histoires de super-héros. C'est-à-dire quand on regarde sur 30 ou 40 ans Le Vent dans les Saules, Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan, Le Magicien d'Oz, Narnia, et j'en oublie certainement... c'est incroyable. Tous ces livres sont restés et aujourd'hui connaissent des secondes vies au cinéma et ont déjà connu des premières vies et demie avec Walt Disney notamment. Il ne faut pas tout jeter là-dedans, même si, justement, quand je parle de Cyberpunk, je dis, vous voyez, Walt Disney, on a retenu les sirènes et les pirates. Et en fait, l'histoire, c'est pas ça. C'est une histoire sur la mort, sur le temps, etc. Donc, mais ces éléments-là, ça me permet de les mettre en exergue et les expliquer aux enfants. Après, moi, en tant que plus tout à fait jeune parent, mais enfin quand même un parent avec des enfants jeunes, je retrouve aujourd'hui aussi le plaisir de faire découvrir des bouquins que moi j'ai lus déjà en tant qu'enfant, et là on est dans la pré-fantasy, et c'est des choses qui sont très importantes pour moi, et notamment deux livres ou deux univers, c'est Max et les Maxi-Monstres, qui est vraiment un truc de fantasy inégalé, quoi, finalement, quand on y pense, et puis Moumine, qui a également beaucoup, beaucoup marqué mon imaginaire, quoi. Et, voilà. Et ça, c'est des choses atemporelles qu'on a plaisir à faire redécouvrir aussi aux enfants qui sont là, des pré-ados, quoi. Ça marche toujours, Moumine.
Vous allez nous écrire
Cyber Moumine ? Je suis pas sûr que ça donnerait des résultats excellents.
Je demandais la suite de La Fin du Monde.
Ah !
Bon, ben c'est là que cette conférence s'arrête. Non, j'ai écrit en fait une suite et puis elle ne me plaisait pas. Et ça arrive. Et je trouve que même c'est un bon sentiment. Enfin, c'est bien aussi de se dire que voilà, on peut échouer, qu'on n'est pas content. Moi, ça fait partie aussi d'un respect par rapport au lectorat, de se dire ben, on pourrait le publier. Et avec l'éditrice, on s'est dit bon, allez, si on fait ça, ça et ça, ben, le truc il sera publiable, ça va, ça sera pas non plus illisible. Mais en fait, ni elle ni moi n'étions très satisfaits. Et du coup, je suis passé à d'autres choses et j'ai toujours cette fameuse suite à écrire. Et puis là, il y a des bon, c'est en tractation un petit peu avec Mango, parce que la collection Autre Monde va se diluer dans quelque chose de plus vaste. On va, je crois, abandonner ses moyens formats pour ne plus faire que du grand format, il me semble. Il faudrait demander ça à Audrey tout à l'heure. Et du coup, je ne sais plus trop. Est-ce que je peux faire un truc plus gros? Est-ce que ça veut dire qu'on va reprendre les deux volumes en un seul? Est-ce que voilà, je suis encore un peu dans l'expectative par rapport à ça. Ça fait partie vraiment de ma réflexion du moment, d'autant plus que les gens me demandent tout le temps. Et avant, c'était moins facile de me trouver, mais aujourd'hui, avec Facebook, en plus, les gens ils m'envoient des messages perso, disant « Ah, la suite de la fin du monde !» Donc cette situation ne sera pas tenable ad vitam aeternam, de toute façon.
Pour chasser par les lecteurs qui veulent la suite.
Vous avez parlé du principe d'intemporalité. Il y a une journaliste qui récemment, dans Figaro, a publié un article sur le manque de qualité de la fantaisie, en expliquant justement que c'était une littérature qui n'était pas transmissible et qui ne faisait pas partie des choses, des grands classiques comme La Comtesse de Ségur, Tichon, tout ça. Et,
c'est tragique.
Figaro.fr. Natacha Bonomi, peu importe. Est-ce que avec des auteurs comme Neil Gaiman ou des auteurs qui sont dans une vraie urbanité, il y a cette possibilité de transmission, ce que vous disiez tout à l'heure sur faire lire à ses enfants, faire découvrir. Est-ce qu'on arrive à, enfin à une génération où on peut se passer les livres qu'on a aimés ou qu'on aime comme adulte et le faire lire à son enfant sans qu'il y ait une vraie frontière entre lecture de quand on est petit et lecture de quand on est grand?
Moi, je suis très contente de leur faire lire, enfin de lui faire lire à ma fille Neil Gaiman, par exemple. J'ai commencé, ça, c'est pas un problème du tout. Moi, c'est vraiment par rapport, et il s'agit pas de taper sur les profs qui sont vraiment les derniers responsables de cet état de fait, mais ils sont prisonniers d'un système. Et à un moment, on vous dit voilà, tu as 13 ans, c'est le moment de lire l'éducation sentimentale. En fait, non, c'est pas vraiment le moment. Enfin, ça peut l'être, mais ça l'est rarement. Et c'est souvent tragique parce que ça crée une coupure avec la lecture et même parfois un rejet que moi-même, qui étais plutôt assez bon élève et assez open, etc., j'ai failli ressentir, en tout cas que j'ai eu avec la littérature française. C'est-à-dire que moi, il y a 5 ans, je me suis dit, en fait, Flaubert est un auteur absolument fabuleux. Ouais, il serait temps quand même à 33 ans. Bon, mais c'est
le bon âge pour le lire.
Mais bon, certainement. Et puis, voilà, pour moi, en tout cas, c'était le bon âge. Et je pense que il y a un âge pour tout. Pour moi, hein, quand je vais dans les collèges, parce que vraiment, je fais beaucoup ça, ce qui est important, c'est de maintenir ce lien avec la lecture, je dirais presque coûte que coûte, quoi. Je ne vais pas être alarmiste, mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Il faut faire des efforts. Si tu lis Naruto, volume 23, ce n'est pas un problème. Moi, je lisais des livres dont vous êtes le héros à 13 ans. J'en ai lu 60. Je lisais que ça. Mes parents, ils rentraient dans ma chambre. Tu veux pas lire autre chose? Non. Et puis après, on lit Ulysse de Joyce, mais plus tard. C'est pas grave. On enlève les livres dont vous êtes le héros en disant lis l'éducation sentimentale plutôt, ça donnera pas des bons résultats. Cette littérature-là, et on a la chance d'avoir maintenant cette littérature qui permet de faire un vrai pont parce qu'il y a une qualité littéraire. Vous citiez Neil Gaiman, c'est un bon exemple. Il y a des histoires, des vraies histoires qui sont aussi un peu des substituts de la mythologie ou de la spiritualité que les jeunes n'ont plus forcément. Il y a une belle langue, voilà. Et donc il y a aucun problème. Pourquoi ils liraient pas ça? Pourquoi ils seraient obligés de lire des trucs qu'on leur impose et dont on sait maintenant à peu près pertinemment qu'ils leur plairont pas? Au risque de leur dire, voilà, c'est ça ou rien, ça sera toujours rien, quoi. Et ça, c'est un peu le grand jeu aussi des documentalistes et des profs quand on va dans les classes. Ils sont contents parce qu'ils imaginaient que les auteurs, c'est alors, soit des gens morts, donc, bon, soit en tout cas des gens avec une grande barbe blanche, etc., ce qui finira bien par arriver, mais il y a le côté. C'est presque quelqu'un comme nous. Il ne s'agit pas de faire faux jeune et tout, mais de dire voilà, moi, c'est ici et maintenant la littérature, elle se donne à vivre maintenant. Et nous, on est des passeurs. Et moi, j'aime à rien tant dans les classes que faire ce boulot-là. Je ne viens pas faire de la retape pour mes bouquins. Je viens leur dire les gars, c'est vachement important de lire, quoi. Et je vais vous expliquer pourquoi, fondamentalement, et pas parce que c'est important, parce que sinon vous n'aurez pas la moyenne. C'est important pour votre vie citoyen, pour votre vie spirituelle, pour votre vie tout court, quoi. Et voilà. Et ça, ben, si on peut les intéresser, si on peut leur mettre entre les mains un bouquin L'étrange vie de Nobody Owens, où dès la première page, il y a un tueur au-dessus d'un berceau, il y a un gamin qui s'enfuit dans un cimetière, ben, je suis désolé, ça marche, quoi. Et après, ils diront qu'il ne faut pas s'inquiéter. Enfin, on ne lit pas Naruto jusqu'à 55 ans, a priori, à moins d'être autiste. Il y a un moment, le blocage, la saturation, elle arrive d'elle-même. Hein, et moi, je l'ai vraiment vécu avec les livres dont vous êtes le héros. C'est-à-dire que bizarrement, au 52e, je me dis, en fait, c'est toujours la même chose. Donc, il a fallu un certain temps d'adaptation. Voilà. On peut être long à la comprenette aussi quand on est ado, mais faut pas casser ce lien-là, quoi, je pense.
C'est la conclusion, ça pourrait être la phrase tout à l'heure qu'avait prononcée Fabrice Collin. L'audace est payante, je crois qu'en littérature aussi. En tout cas, merci.
Merci.
Je vais profiter de l'installation de nos éditeurs qui vont nous rejoindre.